Mardi littéraire, aujourd'hui Antoine Volodine, écrivain et traducteur. Avec aujourd'hui Antoine Volodine, on va parler de son livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil et qui s'intitule Bardo or not Bardo, et puis parler aussi de deux livres qu'il vient de traduire du russe aux éditions de l'Olivier, Slogan de Maria Soudaïeva et Liska et ses hommes de Alexandre Ikonikov. On va évoquer ces livres d'une part avec Jean-Pierre Thibaudat qui est journaliste à Libération et d'autre part avec Michel Parfenov qui est traducteur et éditeur et qui dirige les éditions Solin Actes Sud et qui sera avec nous au téléphone depuis Moscou, où il prépare la prochaine manifestation des belles étrangères consacrée précisément aux écrivains russes. Donc un nouveau roman, Bardo or not Bardo. Au début, on se demande si on n'a pas affaire à des nouvelles, en fait, puisque c'est une suite de récits distincts les uns des autres. Et puis, peu à peu, on aperçoit, on entrevoit des cohérences, des fils, des liens, des renvois entre les différents récits, et notamment des phrases assez drôles de cadavres exquis, nom de jeu littéraire trop beau pour ne pas être utilisé dans un livre qui a pour unique sujet la mort. Et donc tous ces récits sont liés aussi par à la fois ce thème commun et puis un livre qui est le livre des morts tibétains, qui est le Bardo Todol, et d'où la présence de ce bardo évidemment dans votre titre, dont on comprend donc peu à peu qu'il s'agit d'une zone intermédiaire entre la vie et la mort. Ce serait bien simplement que, puisque ça forme au fond, voilà, ou non, je vais dire assez vite, on se dit que vous avez pris comme une sorte de, disons, de contrainte narrative ce bardo Todol, et donc on peut se dire, pour comprendre ce qui se passe dans le livre, que se passe-t-il si on prend les récits bouddhistes au pied de la lettre et qu'on s'en sert justement comme des matrices narratives, que se passe-t-il si on prend pour point de départ, même parodique ou ironique, cette croyance dans une zone intermédiaire entre la vie et la mort. Oui, d'abord, c'est 49 jours dont il est question sans cesse dans le livre, sont présents dans le Bardo Todol.
Oui, alors pour reprendre ce que vous disiez, ce livre n'a pas pour sujet la mort, mais justement ce qui suit la mort, c'est-à-dire un moment de l'existence qui est intermédiaire entre la vie et la mort, qui est intermédiaire entre la vie, la fin de la vie et la renaissance dans un autre corps, la réincarnation. Mm-hmm. Donc c'est pas la sinistre fin de toute conscience, c'est au contraire c'est le moment où on passe dans le monde flottant d'un être à l'autre, d'après la tradition bouddhiste, et cette marche qui suit le décès dure effectivement, d'après le Bardo Todol, d'après la tradition, dure 49 jours. Alors le sujet du livre, c'est de suivre des personnages différents, mais qui sont liés les uns aux autres par différents fils narratifs ou inconscients, dans leur marche dans ce monde flottant. Et
dans ce
bardo qui est le monde flottant. Et un des personnages, enfin il y a deux personnages abstraits qu'on retrouve dans tous les moments du livre, c'est d'une part le bardo, ce monde flottant avec son paysage, sa chronologie, ses jours,
son paysage noir. C'est
le paysage,
c'est noir.
Oui, c'est noir, mais sur ce noir se projette en fait le souvenir de la vie, le souvenir du vécu. Et par conséquent, c'est un paysage qui change d'un personnage à l'autre et qui où l'on retrouve ses obsessions, ses peurs, ses amours, où on retrouve où on se retrouve soi-même en tant qu'individu de façon fantasmée. Bon, ça c'est un premier personnage abstrait, le Bardo. Et puis deuxième personnage qui revient également de moment en moment du livre, de chapitre en chapitre, c'est le livre même. Ce Bardo Todol, ce livre des morts tibétains, qui a été, qui existe bien entendu et qui est composé d'instructions qui sont lues par un prêtre avant le décès et après le décès pour s'adresser aux morts,
d'instructions à donner à l'agonisant ou aux morts afin qu'il se débrouille bien dans ce Bardo.
Afin qu'il se débrouille bien, afin qu'il traverse, afin qu'il comprenne ce qui lui arrive.
Oui, puisque après
le décès, le mort se réveille dans un monde inconnu et qui est le sien. Et d'après le dogme, on doit essayer d'en profiter pour atteindre la claire lumière, atteindre le néant lumineux, devenir Bouddha et surtout ne pas aller vers une renaissance, c'est-à-dire vers de nouvelles souffrances, une nouvelle vie, l'existence étant liée à la souffrance.
Vos morts n'y arrivent pas du tout cette claire lumière, ils échouent lamentablement. Ils échouent aussi à se réincarner correctement. C'est-à-dire que qu'on leur susurre dans l'oreille, ça marche pas très bien.
Voilà, alors j'aime beaucoup décrire cet échec de cette marche, j'aime décrire cette marche dans ce monde inconnu qui est le monde que l'on porte en soi.
Ouais.
Et j'aime l'idée de cet individu qui se reforme dans la mort et qui refuse totalement la perte de conscience dans la claire lumière, dans l'illumination, dans la sérénité, et qui veut absolument revivre une vie de souffrance, revivre et se réincarner. Alors comme mes personnages, comme toujours, sont d'abord assez souvent marqués par des maladies mentales ou des difficultés psychiques, disons, et puis comme ce sont très souvent des losers, ils ne réussissent pas à devenir Bouddha, bien entendu, mais ils ratent aussi souvent leur réincarnation, parce que un personnage comme Glushenko, qui est un idiot parfait, en fait, un militaire qui n'a pas compris du tout ce que c'était que le Bardo, qui dort pendant ses 49 jours, il va finalement atterrir avec plaisir dans une matrice d'animal qui va lui promettre une vie de singe, de macaque.
Ce qui est nouveau dans vos récits, c'est que enfin, pour moi qui vous lis longtemps, par exemple, il y avait eu déjà un peu ça, mais là c'est franchement ironique, c'est-à-dire que je pense que ça correspond très très précisément à la définition du tragicomique, c'est-à-dire que vous ne cessez de parler des choses les plus effrayantes et de choses vouées normalement, au registre métaphysique, sur un ton et avec des codes, par exemple des codes romanesques du roman d'aventure, du roman d'espionnage, etc. Ironique et parodique, c'est ça qui est
ironique, parodique et avec une volonté de drôlerie. J'ai travaillé dans le sens quand même de la drôlerie, puisque finalement c'est une situation qui par nature est à la fois tragique et tout à fait comique, puisque un prêtre qui représente le dogme, qui représente la sagesse, va pendant 49 jours essayer de convaincre un individu de choisir une bonne voie, une belle voie, et cette voie VOIX venue de l'extérieur du monde des vivants va parvenir de façon déformée au mort, qui ne va pas la comprendre, qui ne va pas l'entendre, qui va l'interpréter à sa manière ou qui ne va pas l'entendre, et qui se débrouille tout seul, en fait, se dépatouille tout seul en désobéissant sans cesse à ce que dit le prêtre. Et ce que je trouve très très beau et très drôle en même temps dans ce livre sacré qu'est le Bardo Todol, c'est que on a prévu on a prévu que le mort, dans sa marche, se tromperait sans cesse.
Ouais.
Et dans le discours qui est tenu, il y a toujours cet élément que je trouve comique, qui est ô fils noble, tu voilà déjà 15 jours que tu marches, tu t'es trompé, tu as pris la mauvaise voie, tu n'as pas profité des occasions qui t'étaient données, mais maintenant tu vas encore en avoir une,
ouais.
Essaie au moins de te reprendre. Et moi je trouve ça très très à la fois comique et merveilleux que au niveau religieux on ait prévu cette erreur permanente, répétitive. Et je trouve
que
dans cette répétition, naît un effet comique.
Il n'y a pas que les morts qui se trompent. Il y a aussi les gens qui sont chargés de murmurer le texte à l'oreille, qui se trompent. Par exemple, dans le premier, qui est une sorte de roman d'espionnage, comme ils sont très très pressés, très affolés, ils vont chercher dans la bibliothèque, ils ne trouvent pas le bon livre, et ils se retrouvent avec un livre de cadavres exquis et un autre de recettes de cuisine, ce qui fait que, on va les retrouver d'ailleurs ces phrases plus loin dans le livre enregistré par une machine, ce qui fait que les phrases susurrées à l'oreille de ce pauvre agonisant seront des cadavres exquis. Donc vous jouez sur des calembours, oui.
Oui, bien sûr, parce que là, dans le cas précis, il s'agit d'un agonisant. Les autres moments du livre montrent des personnages qui sont à l'intérieur du bardo, à l'intérieur de l'après-décès. Là, dans le premier chapitre, pour des raisons pédagogiques et pour le plaisir de l'exposition, j'avais mis en scène, comme une forme, un agonisant qui... Alors, selon également la tradition bouddhiste, doit être tenu en éveil jusqu'à l'extrême limite, doit continuer à être conscient de ce passage, conscient de sa mort. Il faut donc, au lieu de le laisser râler, de le laisser mourir, il faut entretenir sa conscience par tous les moyens. Et dans le bardo Teudol, d'ailleurs, on explique qu'il faut presser les carotides d'une certaine manière pour augmenter le flux de conscience. Et là, pour augmenter le flux de conscience, il faut lui parler, le tenir éveillé. Et finalement, ce que je mets en évidence, c'est que la parole sacrée n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est la parole, et non pas l'aspect sacré de la parole. Donc, à la limite, des instructions pour rejoindre la claire lumière ou des recettes de cuisine, là, jouent le même rôle.
Ouais.
Voilà. En plus, je me suis permis de placer des... Bon, j'ai utilisé le comique de la situation, et c'est pas n'importe quelle recette de cuisine, c'est pas n'importe quelle...
Oui, elle est particulièrement sanglante, cette recette de cuisine.
Mais c'est une description finalement de la manière d'accommoder le poulet en se rendant compte que c'est absolument répugnant de préparer des muscles de la chair qui a été vivante pour la faire la transformer, la rendre croustillante. Enfin bon, c'est absolument répugnant de manger des animaux.
Mmh.
Voilà.
tout ce qui fait votre ton, votre violence, votre univers parallèle et infernal et vos mondes finissants et crépusculaires, tout est là en même temps. C'est-à-dire que vous avez comme ça trouvé un ton tragicomique, mais vous ne cessez de raconter les choses les plus effrayantes et les plus... Il y a aussi, comment dire, beaucoup de textes qui sont tout à fait bouleversants, pour lesquels vous prenez beaucoup de distance. Par exemple, il y a un acteur qui joue tout seul sous les arbres, dans la forêt, des pièces de théâtre dont vous racontez le synopsis, et qui sont l'une d'entre elles qui porte un titre extraordinaire qui est donc Objectif Nul. Qui est puisqu'au fond tout le livre est, on pourrait dire, enquête sur le bardo, quoi. Que se passe-t-il,
oui,
dans le bardo? Donc on envoie un moine.
Oui, tout le livre enquête sur le bardo, mais également tout le livre est une déclamation de ces pièces qui sont données par Bogdan Chloum, un acteur et écrivain, qui se trouve tout seul dans la forêt, enfin, à côté de l'hôpital psychiatrique où il est enfermé d'habitude, et qui va dire des pièces de théâtre sur le bardo. Et finalement, tout ce que l'on lit en lisant Bardo or not Bardo, c'est des interprétations par Bogdan Chloum de moments avec des personnages différents, de moments théâtraux liés à la traversée du bardo.
La présence du... Enfin, on pense tout le temps au théâtre, aux situations théâtrales, aux dialogues, etc., à cause aussi de la bande-son, enfin, on va y revenir. Et c'est la première fois qu'en vous lisant, moi j'ai pensé à Beckett. À certaines situations très très précises dans Comment c'est, dans par exemple le second chapitre qui est consacré à une sorte de dialogue entre c'est un chapitre vraiment volodinien, quoi, avec deux bonzes, crasseux, finissants, agonisants, méchants, etc. Est-ce que Beckett a été quelqu'un à qui vous pensiez en écrivant ça, des gens qui s'enfoncent dans le noir, dans une espèce de matière dans laquelle ils s'enfoncent progressivement?
Bon, j'étais conscient de toucher à une même matière que celle qui peuplait les imaginaires de Beckett, c'est évident. Mais c'est normal puisque on se retrouve dans ce deuxième chapitre avec dans ce troisième je crois chapitre avec deux personnages effondrés et épuisés à l'intérieur du noir. Donc on est obligé de penser à Beckett. Cela dit, évidemment, je mets une distance respectueuse entre mes petites choses et ce que pouvait faire Beckett.
Oui. Mais tout en écrivant,
j'étais conscient du fait que je frôlais quelque chose qui renvoyait un peu à Beckett, mais en essayant de ne pas être écrasé par la référence. D'autre part, le théâtre et l'aspect théâtral, sonore, phonique, est quand même lié au fait que il y a plusieurs années, j'avais donné pour France Culture des petites piécettes radiophoniques sur le thème du bardo qui ont été utilisées comme référence ou comme source de quelques moments de ce livre Bardo or not Bardo. Et c'était non pas des pièces de théâtre mais des pièces radiophoniques l'exposition de l'action était liée au son.
Oui, parce que
j'ai veillé à ça
des
aussi.
Gongs, voilà, des trompes, si je ne m'abuse. C'est ça,
oui,
malgré mon inculture.
Oui, le gong. Oui, et il y a dans les chapitres aussi des moments qui sont des moments sonores de silence. Ou de gongs qui viennent de l'extérieur. Tout cela vient de l'extérieur, de l'extérieur vivant, qui est une autre réalité, mais qui peut être, d'après la doctrine bouddhiste, totalement niée. Cette réalité d'où partent les voix sages et dogmatiques.
Mais en vous écoutant, je suis un peu troublée parce que disons le caractère bouleversant et drôle mais bouleversant de ces nouvelles vient du fait que vous utilisez un livre de croyance pour ne cesser de dire avec ces gens qui ne reviennent pas du bardo, etc., qu'il n'y a rien à croire. Et donc en vous écoutant, je suis troublée parce que je vois que votre admiration et votre fidélité, on a l'impression que vous prenez au pied de la lettre le livre des morts tibétains, que d'une certaine façon,
j'aimerais beaucoup que le livre des morts tibétains parle de quelque chose que j'aurai à vivre après mon décès. Malheureusement, je ne crois pas que ça fonctionne. Dans le livre des morts tibétains, il est dit, dans le Bardo Todol, il est dit qu'il suffit d'avoir lu une fois pour s'en souvenir après la mort. Donc j'ai pris soin avec une certaine un certain humour intense de placer. C'est pas sûr que ça marche.
Un nouveau personnage l'a lu, a été enseigné, etc., et l'oublie totalement. Non, et, mais, il va rater totalement sa réincarnation.
Oui, mais non, il l'oublie, mais il préférerait rester dans le bardo, qui est quand même qui est un monde flottant où tout est possible, finalement. Alors, pour que les choses soient très claires, d'une part, je ne suis pas bouddhiste.
D'accord.
Je ne suis pas du tout un croyant. Je ne suis pas du tout croyant. Hein, et simplement, j'éprouve beaucoup de respect pour la religion bouddhiste, et donc il s'agit absolument pas de moquerie anti-religieuse ou de j'ai utilisé le fonctionnement merveilleux, fantastique de ce livre du Bardo Teodol pour faire de la fiction, mm-hmm. voilà, et pour m'amuser avec mes personnages. Mais je n'ai pas du tout la prétention de prendre position sur le bouddhisme. Étant entendu également que le Bardo Teodol, qui est le plus connu des textes bouddhiques en Occident,
oui.
n'est pas central dans la pensée bouddhiste.
Oui. Hein, un mot aussi pour dire que un des charmes de vos récits, c'est la distance que vous mettez toujours pour les raconter. C'est-à-dire que ce ne sont jamais des récits au premier degré. Il y a ce reporter radio en reportage, en direct dans le bardo. Il y a une femme oiseau qui est là pour décrire la réalité, non pas pour en être. Je ne sais plus comment vous dites ça exactement. On vous voit vous poser sans cesse la question du comment raconter. Par exemple, des pièces de théâtre qui sont racontées en tant que pièces de théâtre, etc. Vous mettez toujours une distance entre vos récits et la narration, la façon de raconter, le narrateur.
Oui, c'est peut-être un des aspects théâtraux de cette narration romanesque. C'est une sorte de théâtralisation du roman, ou de romanisation du théâtre, puisque j'ai travaillé aussi à partir de ces pièces radiophoniques dont je parlais, et la distance naît, je pense, de cet aspect théâtral qui est appuyé dans le livre ici, mais que j'ai toujours mis en scène, enfin cette distance qui correspond à une volonté d'affirmer que on ne peut pas manipuler le lecteur et que le lecteur doit savoir que lorsqu'il lit, il est manipulé. Il faut le lui rappeler.
Et un mot des homophonies approximatives, puisque vos cadavres exquis fonctionnent un peu comme ça, sur les homophones, vos personnages portent presque tous le même nom, ce qui fait qu'ils sont...
Mais pas le même prénom.
Mais pas le même prénom. C'est le livre, vous m'accorderez que ça produit une sorte de confusion.
Ils s'appellent tous Shloum, dans la mesure où finalement, le changement de prénom correspond à un autre rôle qu'interprète le personnage central, qui est Bogdan Shloum, qui est à la fois metteur en scène, acteur et écrivain de ses pièces.
Un autre rôle.
C'est lui qui s'occupe de tout. C'est
D'accord.
lui qui donc va de façon un petit peu chamanique, enfin magique, s'incarner à l'intérieur de personnages.
Donc c'est le même.
Donc il y a beaucoup de personnages, mais il n'y en a qu'un seul en même temps.
D'accord. Michel Parfenoff, vous m'entendez ?
Tout à fait.
Vous avez, est-ce que vous voulez intervenir un tout petit peu sur le livre de Antoine Volodine ?
Ça m'est un peu difficile pour une raison très simple, c'est que j'étais en train de commencer à le lire en arrivant à Moscou, et à ce moment-là, il y a eu tous les événements, et j'étais submergé par des images de morts, de tués, etc., et j'ai pas pu continuer à ce moment-là le livre.
D'accord.
Mais ce que j'en avais lu, il y avait une telle force, c'était vraiment pris dedans, et tout d'un coup il y a eu ces événements, et il y avait une espèce de correspondance qui était trop dure à supporter.
Voilà, le livre d'Antoine Volodine s'appelle Bardo or not Bardo, il est publié au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. de Maria Sidaïeva, qui est donc un livre qui paraît aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Antoine Volodine. Alors, c'est un livre très étrange qui pose donc des problèmes compliqués aux critiques et dont on va parler. Mais on va d'abord essayer de présenter les choses comme Antoine Volodine le fait au début de son livre. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs la présenter, Antoine Volodine, puisque vous dites que vous l'avez rencontré à Macao entre 91 et 94, et que c'est donc une écrivain russe née à Vladivostok en 54.
Voilà, alors c'est quelqu'un puisque j'ai habité à Macao à cette époque pendant 3 ans. J'ai fait des rencontres de toutes sortes et je l'ai rencontré alors que les Russes à Macao c'était les prostituées et elle s'occupait de plein de choses, mais elle s'occupait entre autres d'aider les rares prostituées russes qui voulaient sortir des réseaux. Et c'était très compliqué, enfin, c'est-à-dire c'était finalement une sorte de lutte pas perdue d'avance, puisqu'elle a réussi à faire un certain nombre de choses, mais très discrète, contre la mafia russe qui s'installait à ce moment-là, ouais, à Macao. Bon, enfin, ça c'est anecdotique et ça concerne le personnage qui était quelqu'un avec qui j'ai parlé de nombreuses fois, qui était malade de temps en temps, qui avait des problèmes psychiques, et qui était quelqu'un d'être tout à fait extraordinaire et hors norme, qui m'a beaucoup marqué dans la mesure où elle m'a inspiré un personnage que j'ai mis en scène dans Le Port intérieur, qui est Gloria Vancouver. Bon, et d'autre part, elle avait un discours sur la Russie d'après la chute de l'URSS, qui était absolument passionnant et qui était un discours visionnaire très 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 fou, fait de guerre, fait de
la fondée d'options fantastiques dans les années 90
Non, elle n'a pas fondé, non, elle a fondé un mouvement anarchiste, non, mais enfin, elle appartenait à une mouvance, une mouvance intellectuelle et politique qui peut se s'appeler anarchiste. Enfin, elle était, c'était quelqu'un qui a vécu finalement toute sa vie hors de Russie, qui était en rupture avec la culture russe dès le départ, et qui était en rupture avec la culture post-soviétique, et qui donc de l'extérieur disait pique-pendre de l'état actuel de la Russie, enfin de l'état à l'époque, et qui en même temps se définissait un peu comme en refus, qui refusait un peu sa russéité, quoi.
Vous rapportez des propos d'elle dans votre introduction pour la présenter, qui sont très extraordinaires quand on réfléchit à ce qui s'est passé il y a quelques jours en Ossétie. Donc vous écrivez, selon elle, les perspectives ouvertes par la chute de l'URSS étaient noires, la fédération serait gérée de façon catastrophique par ces médiocres élites à présent criminalisées jusqu'à la moelle, le banditisme ne cesserait de se renforcer, la société s'effondrerait, les nationalismes se déchaîneraient, des régions entières allaient sombrer dans la violence. Elle prédisait pour l'ex-URSS d'inévitables et immenses malheurs. C'était un discours terrible. Quand elle se laissait emporter, elle humait la vision que sa maladie générait un écroulement généralisé, etc.
Oui, c'est extraordinaire. Enfin, c'était une visionnaire qui était extrêmement pessimiste. Enfin, elle voyait bien pire que l'Ossétie et la Tchétchénie, hein, bien sûr.
Jean-Pierre Thibaudat.
Mais justement, par rapport à ce que disait Michel Parfenov, c'est que je crois que l'un des rares livres qu'on puisse lire en ce moment, après tout, les Russes, enfin venant de Russie, c'est ce livre. C'est ce livre-là, parce que c'est pour ces raisons-là, parce qu'il ressemble à rien, il est totalement venu d'un autre monde, et il parle d'une façon absolument sidérante de notre monde, mais d'une façon apocalyptique, d'une façon extrême, d'une façon terrible, au-delà de tout, avec en même temps un langage poétique absolument extraordinaire, d'une beauté bouleversante, qui obsédante. Quand on lit ce livre, on ne s'en détache plus. Je l'ai lu un soir, je l'ai lu toute la nuit avec moi, et je dois dire qu'il est avec soit les horreurs de l'Ossétie, soit les horreurs de la Tchétchénie, qui sont dans le fond les mêmes, ce livre-là, dans un sens, va au-delà de tout ça et charrie toute la douleur et tout l'amour qu'il y a dans tout ça. Et alors, c'est un livre en lettres capitales, 100 pages en lettres capitales, et c'est un livre capital en lettres capitales, si je puis dire, et en même temps c'est un livre exclamatoire, tous les slogans, puisque le titre s'appelle Slogan, et que le livre est constitué uniquement de slogans. Tous les slogans s'achèvent comme il se doit par un point d'exclamation, donc il rejoint aussi une sorte d'oralité. C'est un livre fait pour être proclamé dans un sens, ce livre-là, en même temps, s'appuie sur la notion de slogan, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une notion qui nous appartient à nous, qui est celle de la manifestation, de la protestation, de la façon de hurler une injustice, une douleur, et en même temps, en Russie, les slogans, dans l'époque soviétique, ont compté énormément, et même aujourd'hui il y a énormément de restes de tout ça. Dès qu'on se balade en Russie, on voit des slogans partout, des slogans anciens, des slogans nouveaux, les slogans
sont
toujours là,
aussi en lettres majuscules,
vous voyez encore des vieux slogans soviétiques comme ça au fronton d'immeubles, et puis il y avait toutes les affiches soviétiques avec ces lettres capitales comme ça qui étaient proclamées, tout. Donc elle détourne ça complètement dans une sorte de geste poétique absolument incroyable. Alors je pense que le plus simple, c'est quand même d'en donner un exemple, parce que ça paraît abstrait.
Simplement d'expliquer que donc le livre n'est formé que de... Alors slogan, ça a la forme syntaxique d'un slogan, c'est-à-dire un verbal impératif,
absolument,
etc. Mais ce ne sont pas... c'est un slogan dilué dans une sorte de langue très très étrange.
C'est des slogans qui sont par groupe, par petite unité poétique, on peut dire, comme des sortes de poèmes, bien que le mot poème soit insuffisant ou malhabile dans cette histoire. Et c'est divisé en trois parties. Il y a trois parties, c'est programme minimum, programme maximum, instruction en combattante. Chaque partie est composée de 343 slogans. Chaque partie s'achève par le même slogan, donc il y a une vraie structure. Et en même temps, il y a un éclatement intérieur extraordinaire.
Le même slogan, c'est « Les mauvais jours finiront ».
Les mauvais jours finiront. Ouais. C'est dans un sens le seul, je dirais, le seul slogan d'espoir, le seul slogan qui ne soit pas totalement noir, totalement négatif, parce qu'il y a dans cela une sorte d'exaltation de la mort, du meurtre, de la trahison, du noir, un univers extrêmement sombre, mais en même temps qui a une sorte de force de résistance extraordinaire. Alors j'en lis un extrait comme ça, j'ai pris exprès ça parce que ça s'appelle Ordre de base. Donc c'est un enchaînement de slogans qui s'appelle Ordre de base. Avant il y en a d'autres, après il y en a encore beaucoup d'autres. Ordonne tes os à la perfection. Ordonne ta figure à la perfection. Ordonne tes mains froides à la perfection. N'écoute pas Abraham Voriagin, entre dans la glu terrible. Ordonne ton visage avant de te pendre. Ordonne tes orifices à la perfection. Prends avec toi les filles aveugles, ordonne à la perfection. Si tu entends la lumière gueuse, ordonne ton regard. Quand tu entends l'alarme gueuse, ordonne ton nom livide. Rejoins celles qui trahissent, ordonne ta glu à la perfection. Alors, on voit à travers ça, c'est un exemple, comme il y en aurait beaucoup d'autres à citer de ce livre.
C'est étonnant parce que j'avais choisi aussi celui-là pour le lire, donc c'est étonnant. Mais ça fait pas partie des textes les plus violents, ce que vous dites.
Pas du tout.
C'est que c'est d'une étrange et extrême violence sans que ces ordres soient d'une violence explicite, justement. C'est très très étonnant.
Oui, justement. Et alors,
que ce soit de l'ordre politique, par exemple, directement.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on va, on est déjà dans un monde, on n'est pas du tout dans le réalisme. Ouais. On est dans un monde onirique, je sais pas, on est dans un monde rêvé, dans un monde impossible des possibles, d'une certaine façon, avec, comme dans la grande poésie, des énigmes. La lumière gueuse, qu'est-ce que c'est que la lumière gueuse? Quel glu dont elle parle, etc. Il y a, la plupart des slogans sont semés de mystères, comme ça, de mystères poétiques, de bon, le personnage d'Abraham Voriagin apparaît plusieurs fois. Bon, qui est, on sent un personnage horrible, terrible. Les personnages de slogans que Maria met en scène sont essentiellement des personnages féminins. Mmh. Donc on pense, il y a une sorte, c'est comme un monde d'Amazon aussi à travers tout ça.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est un des traits. C'est une féminisation de ce qui d'ordinaire est lié à la sphère masculine, c'est-à-dire la lutte, l'héroïsme,
absolument,
le sang, le meurtre, l'assassinat, la trahison, qui sont d'ordinaire, qui appartiennent d'ordinaire à la sphère du masculin.
Et absolument.
Donc, nul s'écrit toujours NU2LE, ours avec un E, goéland, etc. Tout est féminisé.
Tout est féminisé et les... quand elle dit regroupez-vous, par exemple, donc c'est un slogan récurrent, c'est toujours de l'ordre, c'est toujours ces femmes-là.
Oui, oui.
Bon, c'est toujours quelque chose qui est tiré par là. Et les héroïnes reviennent, héroïnes, en tout cas les noms de personnages qui reviennent de temps en temps, sont quasiment toutes des personnages, sont toutes des femmes comme ça, très très résistantes, comme ça,
ouais,
des guerrières,
ouais,
des bon, et tout le livre est comme ça. Et alors on peut en citer un autre exemple, parce que on va y revenir tout à l'heure avec le traducteur qui est ici présent. C'est que ce livre joue aussi, et ça c'est un des mystères de ce livre, à travers les langues. Volodine, il y a quelques mots russes, hein, comme Ichevo, par exemple, qui est un mot, bon, passe-partout en Russie, hein, qui veut tout dire et rien dire, qui veut dire, bon, rien du tout, ce qu'on, bon, ou rien de rien, ou n'importe quoi. Bon,
que dalle.
Voilà,
que,
oui, c'est ça, par exemple, voilà. Bon, sauf que c'est plus, effectivement, c'est beau, en plus, c'est un beau mot, Ichevo, hein. Et puis aussi, il y a quelques mots d'anglais qui apparaissent comme ça. Par exemple, elle dit, il y a, par exemple, une autre série de slogans, qui s'appelle Après Nichevo. Destruction de ce qui reste et ensuite le repos d'ambre. Repose-toi 1000 ans dans l'ambre. Dans l'ambre, sous les résines, rêve à ta renaissance. 1000 ans dans l'ambre et ensuite renaissance. Repos 1000 ans, silence 1000 ans, vengeance 1000 ans, vengeance 1000 ans et ensuite Nichevo. Etc., etc. C'est une beauté comme ça, absolument extraordinaire, qui est très noir, hein, qui ne fait que décrire un monde terrible, au-delà de la guerre, au-delà du meurtre, qui prône la trahison permanente, qui prône la révolution permanente.
Le suicide
et tout.
Elle se pend beaucoup avec sa ceinture. Hein.
Oui, ouais. Et puis, vous avez, ce qu'on disait tout à l'heure, et là, il y a fin noir, par exemple, elle dit « aucune terre à l'horizon ». Plus un habitant derrière toi. Après ton passage, même le vent ne hurle plus. Derrière toi, un royaume noir sans reine aucune. Après toi, même la poussière peine à voler, etc. C'est une sorte d'anéantissement planétaire terrible, comme ça. Et en même temps, les mauvais jours finiront. C'est ça qui est complètement bouleversant dans ce livre, qui, comme on le voit, ne ressemble à rien.
Mm-hmm. Peut-être.
Mais alors, justement, j'ai beaucoup de questions sur ce livre.
Parce que. Questions compliquées.
Alors, d'abord, comme l'a dit Alexandre Volodine.
Antoine, pardon,
excusez-moi. Ouais. Antoine, je suis dans la Russie, c'est pour ça que je parle d'Alexandre. Comme le dit Antoine Volodine, ce personnage, Maria Soudaïeva, est rentré dans l'un de ses livres. C'est déjà une sorte d'histoire extraordinaire. Alors, effectivement, quand on lit ce très beau livre qui est Le port intérieur, on voit Gloria Vancouver qui...
Il y a déjà des slogans.
Qui dit des slogans. Ouais. D'ailleurs qu'on ne retrouve pas totalement, je ne crois pas qu'on les avoir retrouvés dans ce livre-là. Hein. C'est des slogans parents qui ressemblent, qui sont de la même veine, mais c'est d'autres slogans. Et puis, dans le livre, il y a un personnage d'un écrivain. Qui alors là c'est toujours ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la façon dont Volodine roule sur lui-même en quelque sorte, puisqu'il y a un personnage d'écrivain qui dit utiliser ce que dit Gloria Vancouver pour ces histoires, donc qui ressemblent un peu à ce que vous faites, vous, avec Maria Soudaïeva.
Oui, avec des dispositifs compliqués d'embottement.
Il y a tout ce... l'écrivain Bruegel vous ressemble d'une certaine façon. Enfin, aujourd'hui, vous, publiant ces slogans dont vous avez utilisé d'autres slogans il y a 10 ans, finalement. Bon. Alors, ce qui est très troublant, c'est ce que vous dites à la fin de votre introduction. C'est-à-dire que vous dites que vous avez reçu en héritage une sorte de magma. Je crois que le mot magma n'existe pas dans votre langage, mais disons un texte, disons assez compliqué, vous dites au seuil du lisible ou de l'illisible, et que donc à partir de là vous l'avez transformé, vous envoyez le mot réécrire, je crois, et puis vous dites aussi que vous avez réécrit certains slogans, que vous avez travaillé sur la traduction en allant au-delà du travail qu'on attend d'un traducteur, en y ajoutant des touches personnelles, d'une façon très complice, très tendre, pour ne pas dire presque amoureuse. À un autre moment, vous parlez d'elle comme d'une sœur en écriture, et tout ça me trouble beaucoup, et par ailleurs, dans le livre, on retrouve, par exemple, des choses sur les tambours gold qu'on retrouve dans vos livres aussi, des noms comme Gloria, Gloria Vancouver est un dans votre livre, mais dans ce livre-ci, il y a d'autres noms qui ressemblent à des noms d'héroïnes que vous pourriez avoir. Donc, il y a une sorte de proximité extrême entre ce livre-ci et vos livres, et comme si elle était aussi un personnage. Donc, quelle est la part de création que vous faites dans ce livre? On a l'impression que c'est, je dirais que vous êtes au moins le co-auteur de ce livre.
Antoine Volodine.
Oui, j'ai travaillé sur quelque chose que vous appelez un magma, qui était une somme qui était inachevée. Hein, c'était pas un livre qui était publiable tel quel en le traduisant, avec au moins deux versions, disons. Une première version qui était qui était constituée d'un mélange linguistique extrêmement complexe, et qui ne pouvait pas être qui était au bord de l'illisibilité. Et d'autre part, le début d'une deuxième version qui se voulait un retravail sur cette première ébauche, cette première série de phrases. Mmh. Mais on était en face d'un manuscrit inachevé et impossible à faire connaître au public. Enfin bon, et je me suis retrouvé en face de ça en étant persuadé que absolument aucun travail ne pouvait être fait là-dessus, et j'avais mis ça de côté. Et ensuite je me suis dit, parce que en fait je n'ai plus été en contact avec Maria Soudaïeva pendant très longtemps. Enfin,
quand vous quittez Macao, oui, vous perdez contact avec elle.
Pratiquement, oui, on va dire. Donc, à partir de mes souvenirs aussi, j'étais absolument conscient qu'il fallait faire quelque chose sur ce manuscrit génial, avec des visions sublimes, enfin, et des intuitions extraordinaires, mais un mélange impossible.
Il faut qu'on aille très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui. Et donc, pour vous poser la question de façon plus frontale, ou au moins pour vous dire les sentiments qu'on a, simplement, il y a une telle parenté entre ce que vous faites et ce que fait Maria Soudaïeva qu'on ne peut pas ne pas penser que Maria Soudaïeva, c'est vous. Voilà.
Ah ben, le port intérieur, justement, a des aspects autobiographiques qui n'ont jamais été discutés publiquement, puisque...
D'autant que vous revendiquez de faire une œuvre avec des pseudonymes, des personnages proliférants...
J'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit sœur d'écriture, et c'était aussi, c'était un peu comme un de mes personnages, c'était assez extraordinaire comme rencontre. Et là, je crois que c'est une rencontre de deux inspirations. Pour terminer, on a combien? Ouais. 5 secondes?
3 secondes.
Non, l'idée c'était d'être un peu l'aide, le passeur, et donc d'oser aller plus loin que la traduction, d'être un peu co-auteur, mais sans mettre mon nom sur la couverture.
Voilà, on est obligé de s'arrêter là pour slogan de Maria Soudaïeva, traduit par Antoine Volodine. Je suis désolé, Michel Parfenov.
Juste dire un mot, c'est-à-dire que il y a une chose importante dans la convention typographique russe, quand on met en capitale, ça veut dire un cri. Ça veut dire quelque chose de très important, et vraiment, quand on lit ça, on a l'impression d'un cri. Moi, ça m'a fait penser un peu à Artaud. Enfin, il y a quelque chose de qui dépasse la simple littérature. Là, c'est une espèce d'immense cri et une immense désespoir aussi, parce qu'on a dit que c'était optimiste, mais je trouve que c'est tellement, comme disait Jean-Pierre Thibaudat tout à l'heure, c'est vraiment le livre qu'on a envie de lire tout de suite, vraiment tout de suite, par rapport à tout ce qui vient de se passer en Russie et le pessimisme de Maria Soudaïeva est confirmé, mais d'une façon tellement terrible qu'elle avait vraiment raison de voir tout ça.
Vous êtes donc à Moscou, se déroule en ce moment, un salon du livre, puisque vous m'expliquiez, quand on a préparé l'émission, qu'à Moscou se déroulent deux salons du livre en réalité. C'est l'occasion, très très brièvement, d'essayer de parler de ce qui se passe du point de vue de l'édition et de la littérature là-bas.
Oui, le salon du livre officiel de septembre vient de finir. Il y avait une énorme délégation française conduite par Monsieur Ayrol, Antoine Gallimard, pour une raison très simple, c'est que en mars prochain, la Russie est invitée au salon du livre. Donc, il y avait beaucoup de mouvements autour de tout ce qui allait se passer, et c'est un peu l'ouverture de presque six mois de... On parlera de la littérature russe.
Oui.
Ce qui m'a beaucoup frappé cette année dans les stands, dans cette exposition de septembre, c'est les progrès immenses de design, les progrès à tout point de vue d'organisation, mais peut-être quelque chose qui était assez frappant, c'était l'absence pour la première fois des éditeurs découvreurs, des éditeurs de littérature, et on revoyait les auteurs qui avaient été découverts par les tout petits éditeurs chez des énormes découvreurs, des éditeurs, et il y en a quelques-uns qui sont vraiment des monstres qui prenaient à peu près tout l'espace. Mais heureusement, en décembre, il y a un autre salon qui s'appelle Nonfiction, où vraiment on parlera beaucoup plus de littérature.
Mais ce qui apparaît, c'est qu'après une période, il faut aller très très vite, après une période où la littérature russe était un peu méprisée en Russie même, à nouveau les écrivains russes, enfin, vous voyez une nouvelle génération apparaître.
Tout à fait méprisé, c'est-à-dire que le début de l'édition, l'édition d'après le communisme, c'était Angélique Marquis des Anges, tirait 80 millions d'exemplaires, et je veux dire, les écrivains russes ont commencé à être édités, enfin, les nouveaux écrivains russes, Pelevine, Sorokine, tous ces gens, 4-5 ans après, et les tirages étaient de 5000 exemplaires, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, Aksionov son nouveau livre vient de paraître, c'est quand même un des écrivains les plus connus actuellement en Russie, le tirage, m'a-t-il dit, est fabuleux, c'est 25 000 exemplaires. Mm-hmm. Donc la littérature est quand même encore très très mal diffusée, mais malgré tout, les écrivains retrouvent la place dans l'édition, dans les librairies. Ulitskaya fait partie, le dernier Ulitskaya qui va paraître en mars chez Gallimard, fait partie des 10 livres les mieux vendus, enfin dans les 10 best-sellers.
Voilà, on va reparler de tout ça avec vous, puisque vous êtes là-bas pour organiser les belles étrangères russes qui vont se dérouler à Paris dans la deuxième quinzaine de novembre. Et donc, vous disiez qu'il y avait une nouvelle génération d'écrivains russes. On va tenter de les suivre avec vous. Merci beaucoup, Michel Parfenov. Parler aujourd'hui de Bardo Arnaud Bardot de Antoine Delodine, qui est publié au Seuil dans la collection Fiction et compagnie de Slogan de Maria Soudaïeva, traduit du russe par Antoine Delodine aux éditions de l'Olivier. On n'a pas du tout eu le temps de parler de Liska et ses hommes de Alexandre Ikonnikov, traduit du russe par Alexandre Delodine aussi aux éditions de l'Olivier. Et je voulais signaler que Ikonnikov ainsi qu'Aksionov seront présents au festival Volga Est-Ouest qui se tient à Die dans la Drôme jusqu'au 26 septembre. Ces mardis ont été réalisés par Daniel Finot, à la technique Ariane Herbé, à la documentation Marie Gobin et à la coordination Geneviève Méric.